On met un coup de projecteur ce matin dans les studios de Radio Royan sur une thématique bien trop méconnue et pourtant très répandue. C'est la question de l'aide, de l'aidance, de l'accompagnement des personnes, alors soit handicapées, soit en perte d'autonomie, avec cette association qui s'appelle Hello Répit. Et pour en parler, je reçois Betty, qui est fondatrice. Bonjour Betty.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Et Christelle, qui est chargée de com. Et peut-être bénévole aussi de cette association, on peut dire ça?
Tout à fait, bonjour.
Bonjour à toutes les deux, merci d'être venues parler de ce sujet hautement important. Vous êtes plutôt basée dans le sud Grésivaudan, à Saint-Marcellin, et vous avez créé cette association qui s'appelle Hello Répit. Alors on entend déjà le mot répit dans le titre, c'est bien joué. Est-ce que vous pouvez nous dire, Betty, d'où ça vient?
Alors en fait, moi de base, je suis infirmière libérale et diplômée en soins palliatifs et sophrologue. Et j'accompagne donc tous les jours des personnes soit en perte d'autonomie, atteintes de maladies graves, handicap ou en soins palliatifs. Et toujours la même chose, on prend soin de la personne, mais autour de cette personne, il y a des proches, que ce soit un mari, une femme, un enfant ou quelqu'un voisin parfois, qui va s'occuper de l'administratif, à prendre des rendez-vous médicaux, qui va s'occuper des traitements, qui va aussi parfois gérer les nuits qui sont très compliquées. Mais alors oui, on prend soin de la personne qui est malade, mais on prend très peu soin de celui ou de celle qui l'accompagne.
Et c'est bien pour ça qu'il fallait combler ce manque avec Hello Répit. Là, vous exercez toujours, vous êtes toujours en activité?
Non, j'ai mis de côté l'activité libérale pour me consacrer à 100% à Hello Répit.
Au projet. C'est aussi, voilà, vous avez constaté ce manque dans le paysage, on parle un peu d'écosystème autour de la personne, soit malade, soit handicapée. On disait que ça peut être aussi un enfant avec, par exemple, autiste ou quelque chose comme ça, ou handicapé, avec des parents qui mettent aussi, voilà, en parenthèse leur vie pour s'occuper de lui. Comment ça se fait qu'au niveau des politiques publiques, il y a pas grand-chose qui soit fait autour de ça?
Alors, il y a des choses qui sont faites autour de ça. Les dons, on commence beaucoup à en parler, puisque là, récemment, il y a eu, au niveau de l'aidant, maintenant, a le droit à la retraite quand il est aidant, mais reconnu aidant. Il y a aussi une allocation pour aidant. Mais voilà, il y a un Français sur quatre qui est aidant, mais il y a plus de la moitié qui ne se reconnaît pas comme étant aidant. Pour eux, c'est normal, ça fait partie des choses qu'ils ont à faire, en fait. Ils le font avec le cœur. Sauf que comme ils ne se reconnaissent pas aidants, on appelle ça les invisibles, ils ne demandent pas d'aide. Et donc ils tiennent et puis ils vont jusqu'à l'épuisement.
Donc 1 sur 4, ouais. Chers auditeurs, auditrices qui nous écoutez, peut-être vous êtes concernés et vous êtes vous-même aidant ou aidante et vous ne le savez pas. Parce que voilà, comme vous dites Betty, c'est un peu normal. Voilà. On a passé toute sa vie avec son mari, sa femme et puis on l'accompagne dans la fin de vie par exemple. Ou alors on met au monde un enfant qui a besoin... d'aide et de soins, et en fait on le fait normalement. Qu'est-ce que vous constatez comme besoin? De quoi ont besoin les aidants?
Alors les aidants, il y a trois grandes choses qui ont été mises en avant. C'est le besoin d'être informé par rapport à toutes les aides qui peuvent exister, d'être soutenu, ça c'est très important, et surtout besoin de répit. Parce que si on n'intervient pas en amont et bien avant de vraiment s'effondrer, eh bien de toute façon ça met en danger la personne elle-même, parce que ça a une atteinte au niveau de sa condition physique, de aussi des problèmes de santé mentale, hein, et de toute sa qualité de vie de toute façon qui se délite. Mais ça va aussi impacter la personne dont elle prend soin, parce que si elle-même tombe malade, ça va entraîner ce qu'on appelle nous des ruptures de parcours de soins, et donc des hospitalisations en urgence, des problèmes au niveau de la famille, etc. Donc ça a vraiment un impact très important. Et je vais aller beaucoup plus loin et vous donner un chiffre qui est très fort. Il faut savoir qu'il y a un aidant sur trois qui décède avant la personne qui l'accompagne.
Donc là, on est dans un cas de figure un peu effet boule de neige, quoi. C'est-à-dire qu'on se met de côté pour aider parce qu'il n'y a un peu pas le choix, ou on se dit qu'il n'y a pas le choix. Mmh. On ne prend pas de répit et puis ça va jusqu'à l'épuisement ou la rupture de cette position d'aidant.
Au-delà de ça, d'ailleurs, justement, par rapport à ce point de rupture auquel l'aidant peut arriver, il y a aussi une question de relation qui se joue. C'est-à-dire que l'aidant donne beaucoup, il est fatigué, ça lui coûte, il ne le dit pas forcément. Et du coup, ça entretient aussi une relation qui est assez bancale avec la personne qui l'aide. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément avoir des propos justes, des propos toujours doux, qui peuvent être forts, qui peuvent être crus, même, ou, enfin voilà, avec la personne qui l'aide, pour culpabiliser ensuite, une fois qu'il est seul. Voilà, parce que ça lui coûte, parce que ça lui prend du temps. Et la relation entre l'aidant et l'aidé, du coup, en est atteinte.
Se détériore.
Se détériorer. Et justement, ça va au-delà de l'expérience juste de l'aidant lui-même, c'est de l'expérience et de la relation de ce couple aidant-aidé. Mmh. Et c'est aussi une des vocations et une des missions des LOREPI de venir préserver, en fait, cette relation.
En fait, peut-être qu'effectivement, la relation se détériore parce qu'on sait à quel point c'est usant, épuisant de soutenir quelqu'un au quotidien. Vous parliez des nuits, Betty. Oui. Vous parliez aussi de cette question qui peut être autant sur l'administratif que sur le soin, monter des dossiers pour accéder à des institutions. Et pendant ce temps-là, la personne met en parenthèse peut-être sa vie ou toutes les choses qu'elle a à faire, voire prend soin de plusieurs personnes en même temps. Je pense à des femmes qui ont à la fois des enfants, se retrouvent à aider leur mari. Alors ça, c'est un autre chiffre qu'on sait, c'est que souvent les femmes restent plus quand il y a une déclaration de maladie, alors que les hommes vont avoir plus tendance à partir ou à rompre ou à s'éloigner de la situation quand il y a une situation de dépendance. Et du coup, vous, votre association et LOREPI, c'est donc pour pallier à tout ça, vous avez constitué autour de cette question de l'aidance trois axes: la promotion, la prévention et la formation du grand public. Est-ce qu'on peut un peu détailler ces axes, Betty?
Donc en fait, au niveau de la promotion, on fait faire ce qu'on appelle, nous, la promotion à l'aidance, parce que il y a un constat qui est général, de toute façon, sur tout le territoire, c'est que les aidants, on appelait ça les aidants invisibles, parce que les gens ne se reconnaissant pas comme aidants, ne vont pas aller vers les structures qui peuvent leur proposer des choses. Donc nous, on a réfléchi à ce sujet et on s'est dit, on va mettre en place la caravane de répit. Donc l'objectif de cette caravane, c'est de pouvoir aller informer, sensibiliser, d'être à l'écoute, d'accueillir, hein, et ça en allant rayonner en ruralité, en fait. Hein, on va se déplacer vers pour
aller
accueillir.
Vers.
Voilà, c'est l'aller vers. C'est vraiment le aller vers pour pouvoir accueillir ce qui est besoin.
Un peu comme le fait en route vers la santé du côté du sud Grésivaudan, mettre en place un camion ou une caravane. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez vous mettre sur un parking, un marché, et faire connaître?
C'est ça. Au niveau du marché, là où les gens passent le plus souvent, ou à côté des CCAS, pour dire, on est là, on est identifié comme étant, là où on peut avoir de l'information, de la sensibilisation. Si vous avez besoin de parler, venez nous voir. Mais c'est surtout également de pouvoir, après, réorienter les gens vers les structures vers lesquelles ils peuvent aller. Nous, on ne souhaite pas travailler tout seul. C'est vraiment pas le but. On veut vraiment travailler avec tout l'environnement qu'il y a autour, tout ce maillage, les CCAS, les professionnels de santé, les personnes qui interviennent à domicile. Donc
Oui, j'allais vous demander quels sont les relais. Donc c'est l'aide à domicile.
Alors en fait, au niveau relais, nous on travaille avec la structure, par exemple comme la DMR, comme avec O2, où on va justement aller, on en parlera après, les former par rapport à l'aidance. Le but, c'est vraiment d'aller amener cette culture de l'aidance à tout l'environnement qu'il y a autour de la personne dont on prend soin, pour pouvoir les soutenir, mais vraiment les soutenir.
Et Christelle, je me tourne vers vous parce que je me dis, là, dans cette caravane où il faut informer le grand public, si on est face à des personnes qui ont un peu de résistance ou de défiance en se disant non, moi je suis pas aidant, ou alors c'est normal, ou alors qu'est-ce que je peux faire d'autre, enfin vous voyez comment on travaille ce en mettant cette caravane là que je sais pas, vous allez appeler répit ou je sais pas, comment ça peut se passer dans la communication avec le public, justement?
Alors déjà, on a fait un gros effort de visibilité. Parce que la mission des LOREPI, quand même, c'est de ramener de la couleur dans des vies qui peuvent devenir grises, voire noires. Voilà, celle des aidants, qui arrivent justement à des situations d'épuisement. Donc, la caravane des LOREPI porte les couleurs des LOREPI, donc normalement, elle est très visible. Et c'est vraiment une question de visibilité et de transmission du message qu'on va chercher. C'est-à-dire que les personnes qui vraiment veulent venir se renseigner, qui se considèrent comme aidantes, qui viennent dans la caravane ou qui viennent se renseigner, dans tous les cas, porteront le message. Elles viennent parler pour elles, mais elles viennent parler pour leurs voisins, elles viennent parler pour un cousin, pour une amie, pour un collègue. Du coup, après, elles portent le message autrement. Alors, un aidant qui ne va pas se reconnaître comme aidant de prime abord va entendre parler, va entendre des témoignages, et puis, tout simplement, va entendre un ami, quelqu'un qui l'apprécie, dire « j'ai pensé à toi ». Parce que tu te rends pas compte, mais tout ce que tu me racontes à la machine au café le matin, ou autour de ta fatigue, autour de la santé de ton papa, dont tu t'occupes régulièrement, fait que tu pourrais aller trouver de l'aide dans cette association.
Oui, j'allais dire, c'est aussi des signaux, peut-être des fois, là, les personnes qui nous écoutent, on se sent pas concernées parce que dans nos proximités, il n'y a pas cette relation d'aide, mais par contre, on peut voir les signaux chez nos amis, chez nos collègues, de dire, tiens, t'as l'air de plus en plus épuisé, comment ça se passe, l'accompagnement de ta mère ou de ton... enfant, enfin, en plus, on sait que c'est des choses qui durent dans le temps, donc c'est vraiment une course de fond, quoi, de tenir dans les danses. Donc ça peut être tout le monde, en fait, qui peut prendre en compte les signaux qu'on voit chez les autres.
Bah, à un moment, Betty, tu m'arrêtes si je me trompe, mais à un moment, dans notre vie, on sera soit forcément aidant, soit forcément aidé. Donc le sujet concerne tout le monde. Alors, de près ou de loin, avec des pathologies ou des pertes d'autonomie qui sont plus ou moins importantes. Mais on est tous concernés.
Avec le vieillissement de la population, en 2030, hein, le nombre de personnes âgées sera plus important que le nombre de personnes qui sont jeunes.
Voilà. Okay.
Donc, automatiquement, ça c'est mais statistiques et mathématiques, on sera dans notre vie au minimum, je dis bien au minimum, une fois aidant et pas que d'une seule personne. C'est-à-dire qu'on sera aidant de nos parents, peut-être aidant aussi de nos grands-parents, etc., etc., etc. Donc, comme disait Christelle, on sera tous aidants, puis aidés.
Oui, donc ça peut se reproduire plusieurs fois dans la vie, quoi.
Tout à fait.
Tout à fait.
Et donc là aussi, on va être dans l'usure ou dans la difficulté à tenir, quoi.
Mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une course de fond. Parce que c'est pas des choses qui se font sur le mois, c'est des choses qui se comptent en 2, 3, 5, 10, 12, 15 ans, même plus parfois.
Du coup, ce qui me questionne, c'est, et l'ORIPI peut pas se substituer, même si j'entends qu'il y a tout ce prendre soin des personnes qui prennent soin, comment faire pour des personnes qui, oui, voilà, montent des dossiers pour faire entrer des gens en EHPAD, sont face à des personnes qui sont en déni, par exemple de leur dégénérescence, ne trouvent pas des relais, et qui s'épuisent à essayer de, qui se débattent un peu tout seuls avec ces dossiers, vous voyez.
Alors, la caravane de répit, ce sera également pour ça. En fait, ces personnes viendront nous parler de ce que je disais tout à l'heure, de les soutenir par rapport à ça, à tout ce qui est l'administratif, qui est vraiment un gros point noir chez eux, parce qu'ils sont déjà très épuisés. Et c'est, voilà, notre rôle, c'est aussi de dire, bah voilà, vous allez trouver de l'aide au CCAS, vous allez trouver de l'aide au CLIC, etc., de les orienter aussi vers les bonnes personnes.
Parce qu'il y a des assistantes sociales qui aident à faire ces dossiers.
Tout à fait.
Oui, oui, tout à fait.
Au CCAS, par exemple.
Voilà, c'est ça.
Donc ça, c'est important de le dire aussi aux personnes qui nous écoutent. Si vous êtes en souffrance avec votre dossier administratif qui est un peu lourd, vous pouvez vous faire aider.
Oui, tout à fait. N'hésitez pas même à aller au CCAS, à demander de l'aide au niveau des assistantes sociales. Elles se feront une joie de vous accompagner.
Le deuxième axe après donc ce premier autour de la promotion de l'aidance et cette culture de l'aidance que vous avez envie de diffuser, c'est la question de la prévention, notamment ce que vous disiez sur la rupture des parcours de soins.
Oui, tout à fait. Donc cette prévention, en fait, de deux façons. Déjà, une prévention pour sensibiliser et informer. Donc on fait ce que l'on appelle des causeries pour que les gens qui accompagnent quelqu'un puissent avoir un lieu où échanger ce qu'on appelle, nous, la paire aidant. C'est-à-dire que, voilà, ça permet d'échanger entre soi et de se dire, bah tiens, moi aussi, je vis ça. Ah oui, bah d'accord, je me sens moins coupable. Je vais reprendre ce que disait Christelle tout à l'heure, où parfois, effectivement, on a des mots un peu violents, on a des gestes un peu violents avec la personne que l'on aide. On se sent très coupable. Et là, ça permet d'échanger et de se dire, bah, finalement, vous aussi, vous vivez ça. Et nous, on accompagne cette parole, en fait. On va parler de plusieurs thèmes, dont la culpabilité. On va aussi parler, par exemple, du deuil blanc, dans le cas de maladies neurodégénératives. De thèmes comme ça, dont les gens ne connaissent pas forcément, mais qui met des mots sur les choses qu'ils vivent, en fait.
Toujours dans cette idée de rompre l'isolement et de se dire, il n'y a pas que moi qui vis de la culpabilité parce que j'ai eu un mot agressif avec la personne que j'aide, j'ai eu une pulsion d'agressivité.
Il y a ce côté rompre l'isolement, c'est une chose, et puis aussi mieux vivre, c'est le côté expérience de l'aidance. on peut, de l'autre côté, avoir un aidant qui nous parle mal. Il est dans la souffrance, il est dans la conscience de son état d'être un poids, d'être une charge. Il le vit peut-être mal. Il ne le communique pas peut-être en l'état en disant « je suis désolée ». Voilà. Il peut avoir des propos justement qui sont durs, mal parlés. Mmh. « Mets-moi mes chaussettes, fais-moi à manger. » Et parler de manière un peu déplacée ou non attendue à son fils ou à sa fille, qui, pour le coup, va se sentir blessé, agressé, dénigré. Enfin, en disant, j'aide toute la journée, je suis là tout le temps, je suis presque là 24 heures sur 24, voilà comment il me parle. Mmh. Et ces temps de causerie, justement, c'est un endroit pour venir poser ça. Mmh. Et aussi pour venir aider à accepter, à accueillir, à dire attention, la psychologie de la personne que tu aides n'est pas celle de la personne que tu as connue quand elle avait 40 ans, 50 ans, 60 ans. Aujourd'hui, elle est dans la maladie, elle est dans le dur, elle est dans le mal et elle te parle comme elle peut. Et il faut réussir à accueillir ça de manière différente.
Oui, parce que là, on est passé vite sur le deuil blanc, mais c'est le deuil blanc pour les personnes qui nous écoutent et qui savent pas. C'est le fait de... je vous laisse peut-être en parler. J'allais donner la définition, mais...
Donc, en fait, le deuil blanc, si on prend, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, c'est le fait de faire le deuil de la personne que l'on connaissait avant. Parce que la maladie d'Alzheimer entraîne de gros troubles cognitifs et donc on ne reconnaît plus la personne avec laquelle on vivait. Et ça, c'est très difficile à vivre, en fait.
La personne est toujours en vie. Voilà. La personne n'est pas morte encore, mais on est quand même déjà dans un processus de deuil. Et ça peut être très, très douloureux pour les personnes qui sont là. Dans ces causeries, est-ce que vous les avez déjà mises en place? On en est où à
Alors, oui, elles sont déjà mises en place. Donc, on propose sur Saint-Marcellin donc, un atelier qui a lieu au CCAS, donc l'après-midi, et un atelier qui a lieu le soir sur Aria 38. Alors, pourquoi deux créneaux? Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément d'aidants qui sont des personnes qui sont encore en activité professionnelle. Donc, il fallait proposer ainsi un créneau du soir. Donc là, on est dans la phase, on va dire, test au niveau de nos créneaux. Ouais. Parce que c'est pas évident de savoir s'il faut mettre un jeudi, un mardi. Donc voilà, on tâtonne un peu là pour voir un peu ce qu'il en est pour la mise en place des créneaux. Mais on va y aller.
Ça, c'est pour la partie Saint-Marcellin. Oui. Et puis il y a une causerie tous les derniers vendredis du mois de 17h30 à 19h au Réchaud. C'est un café associatif
à Vinay.
Voilà, et où, du coup, qui instaure beaucoup de causeries. En l'occurrence, là, c'est la causerie autour de l'aidance.
Voilà. Donc Vinay au Réchaud, 17h30, 19h le vendredi.
Le dernier vendredi du mois.
Dernier vendredi du mois, donc une fois par mois. Et l'après-midi, m'avez pas dit quel jour c'était?
Au CCAS de Saint-Marcellin, c'est le vendredi. Donc ça, c'est une fois tous les 15 jours. Donc c'est 15h30, 17h. Hein. Et Aria 38, c'est pareil, c'est une fois tous les 15 jours. Et là, c'est 18h30, 20h.
Le vendredi aussi?
Un lundi ou un mardi, on essaie en fait de changer.
Là, vous êtes dans vous testez.
Un peu. Par contre, je voudrais juste revenir sur les causeries dont on parlait, deux thèmes qui sont ressortis et dont on parle très peu et qui en ce moment me semblent importants de parler. C'est tout ce qui est l'addictologie, c'est-à-dire addiction chez les aidants, où on n'ose pas en parler et moi je mets le doigt dessus parce qu'on le voit. C'est tout ce qui est les problèmes d'alcoolisme. Parce que de toute façon, ça est, c'est présent. Et l'addiction au traitement, que ce soit les benzodiazépines, donc les médicaments pour dormir ou les antidépresseurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle la santé mentale des aidants. Et ça, c'est hyper important. Mais ils le disent de toute façon. Moi, j'ai une dame il n'y a pas longtemps qui me disait, moi, le soir, j'en pouvais plus. Je me suis dit, allez jouer un petit verre de vin. Puis elle dit, et un verre, et encore un verre, puis un verre, puis un verre. Donc elle dit, maintenant, moi, je suis devenue alcoolique.
Je suis tombée dans l'alcool, quoi.
Voilà. Et les conséquences de l'aidance. Et ça, on en parle très peu.
Donc ça, c'est aussi les béquilles que vont trouver les aidants pour réussir à tenir dans cette course de fond, qui vont être effectivement, qui vont dégénérer sur leur propre santé, santé mentale, santé physique. Donc très très important d'en parler. Ce sont des groupes, des causeries que vous animez, vous?
Oui, alors j'anime ça avec la cofondatrice qui est Mélanie, et qui vient aussi animer ses causeries avec elle, plus son regard d'EduxPé. Elle est plus spécialisée, Mélanie, en, comment vais-je dire, tout ce qui est le trouble du neurodéveloppement pour les enfants autistes, etc. Moi, je suis plus sur la gérontologie, mais on anime ça tous les deux, puisqu'on est formés en aidance, on est formés en parole, etc. etc.
Voilà. Oui, on rappelle que là, on a donné un peu des exemples, plutôt soins palliatifs, parents qui dégénèrent, tout ça, mais il y a aussi les enfants.
Tout à fait.
Les enfants porteurs de handicap, et ça, c'est d'autant plus long que ça va durer toute la vie.
Tout à fait. Et puis aussi, enfin, on pourrait en parler en même temps pendant des heures, mais aussi on parle des danses, mais il y a aussi l'après-aidance, une fois que la personne justement n'est plus là. Mélanie est aussi Tanadoula, elle accompagne aussi les personnes dans leur grand départ, et elle accompagne les personnes qui y restent, du coup, ensuite. Et ça, c'est un vrai sujet, un sujet d'accompagnement de l'aidance.
Qui est, Le deuil, c'est quelque chose de très important parce qu'on parlait justement du deuil blanc. Mais de toute façon, l'aidant fait énormément de deuil au cours de son accompagnement. Et il faut aussi le préparer, comme on le dit Christelle, au grand départ. Et il y a une façon de faire, il y a une façon de parler, d'amener les choses. Mélanie, effectivement, est un adoula. Moi, je suis formée en soins palliatifs. Et voilà, il y a des choses à parler. Donc, par exemple, les directives anticipées, choses qui ne sont pas faciles à aborder, mais dont il faut parler. Parce que quand ça arrive, il faut être prêt.
Et c'est vrai que sur nos ondes, on relaye souvent les cafés mortels, les ateliers autour de Thanatosphère qui est une des associations locales basées à Valence qui travaille énormément sur cette question-là pour sortir du tabou et de se dire plus tôt on prendra les choses en charge, moins ça nous tombera sur le coin de la figure le moment
tout
venu.
À fait.
Troisième axe, après la caravane.
Je reviens sur la promotion.
Oui.
Parce qu'on fait aussi la promotion au niveau des professionnels de santé. Donc au niveau professionnel de santé, on a développé, c'est pareil, la sensibilisation et l'information. Parce que c'est pareil, pour développer cette culture de l'aidance. Donc de deux façons. La première, au niveau des professionnels qui exercent déjà. Là, pour donner un exemple, on va aller sensibiliser à la DMR de Vinay sur deux groupes où on va aller leur parler de l'aidance. Des premiers signes à observer parce que c'est vraiment ces prestataires, ces personnes, ces auxiliaires de vie qui interviennent sont vraiment là tout le temps et ils ont un besoin, sachant si on revient sur les chiffres de l'aidance, quand on disait une personne sur quatre est aidante, c'est-à-dire que ces professionnels de l'aidance sont eux-mêmes parfois aidants.
Mmh.
Voilà. Donc il y a des choses à aller travailler. Donc on va aller travailler ça au niveau de la sensibilisation. Au niveau là, juste après vous, je m'en vais à la MSP de Pont-en-Royant. on travaille beaucoup avec tout ce qui est les médecins, les infirmières pour mettre en place cette culture de l'aidance. Et également, donc ça c'est un axe qu'on va développer bientôt, c'est d'aller dans les écoles. C'est-à-dire de porter cette culture de l'aidance déjà à la base, donc d'aller former à l'aidance au niveau des écoles d'auxiliaires de vie, d'être soignante, d'infirmière, d'amener les bons gestes, d'amener l'information pour pouvoir aider encore plus les personnes.
Oui, puis c'est elles et eux qui seront la première interface. Donc en fait, il faut qu'ils relayent vers vous. Et donc du coup, il faut qu'ils vous connaissent.
Voilà.
Mais je me dis, avec tout ce que vous développez là à Hello Ripi, alors j'entends que c'est le début, vous tâtonnez, vous essayez de trouver comment ça va se passer, mais je me dis que ça fait beaucoup de monde à former, beaucoup de monde à sensibiliser, étant donné que c'est une thématique qui concerne tellement de gens, comment vous allez faire pour pas vous épuiser ?
On profite de la prise de parole du jour pour rechercher aussi des bénévoles et de la force vive. Et Hello Ripi, c'est une association qui est insufflée, portée, née de la volonté de Betty, mais qui ne peut pas tout faire. Donc même s'il y a déjà pas mal de personnes en fait qui œuvrent pour l'association, il n'y en aura jamais assez, notamment pour pouvoir démultiplier ces causeries, les ateliers, et avoir de plus en plus d'animateurs. Donc, on lance un appel aux uns et aux autres qui sont du métier et qui se sentent l'envie et le besoin de contacter Betty à ce sujet.
Et on travaille aussi beaucoup, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, en coordination. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup d'actions qui peuvent être mises en place, mais qui peuvent être portées par notre structure aussi. Par exemple, c'est ce qu'on disait, les maisons de santé ont beaucoup de projets. Nous, on veut vraiment faire de la coordination, de monter des projets ensemble, en fait, d'aller vers, et vraiment de pouvoir amener quelque chose de concret aux aidants, et pas juste une petite chose de temps en temps.
Oui, parce que là, j'ai envie de dire, des papotes ou des causeries ou la mise en place de la caravane sur le marché, ça peut être tous les jours. Il y aura de la matière, quoi.
Oui, tout à fait.
Donc, il y a un moment, effectivement, il va falloir des relais, des bénévoles,
des ressources.
C'est ça.
Je pense à Thanatosphère, parce qu'on en parlait juste avant, qui a formé beaucoup de gens pour animer les cafés mortels. Et il peut y avoir, un même soir, trois cafés mortels dans trois lieux différents parce qu'ils ont essaimé. Et peut-être c'est ça qui va se passer au bout d'un moment.
Tout à fait. Moi, je dis toujours aux personnes que je rencontre que qui est mieux placé que la personne qui est aidante pour exprimer ce qu'elle a à dire et expliquer aux autres ce que c'est. Voilà. D'où la pérédance.
Du coup, on invite toutes les personnes qui se reconnaissent dans tout ce qu'on est en train de dire de rompre l'isolement.
Tout à fait.
De sortir de ça. Donc, c'est quoi si on n'arrive pas à vous joindre directement, ça peut être quoi? Ça peut être s'adresser à une assistante sociale, s'adresser à son médecin de famille.
Déjà, la démarche de se reconnaître en tant qu'aidant, c'est déjà un grand pas. Déjà. Oui, j'ai le droit moi aussi à du répit. Oui, j'ai le droit de. Enfin, je peux ne pas culpabiliser parce que ça fait des mois que j'ai pas fait de sport, ça fait des mois que je vois plus mes amis, ça fait des mois et du coup c'est lourd pour moi et du coup ça me coûte. J'ai le droit de ne pas culpabiliser parce que ça me coûte. Oui, c'est une réalité, c'est un fait. Et juste de reconnaître ça, de se dire comment maintenant que je l'ai reconnu, comment je peux remettre en place des choses dans ma vie qui me ressourcent, qui me font du bien et qui me permettent de mieux vivre cette expérience d'aidant, plutôt que d'y laisser ma propre santé.
Prendre une semaine de vacances.
Prendre du répit.
Ou un séjour répit, parce qu'il y a également...
Alors, les séjours répit, on n'en a pas parlé.
Ah, on n'en a pas parlé, donc on y vient. Donc, en fait, je vais juste clôturer pour tout ce qui est promotion et prévention. Et comme vous disiez, où peuvent-ils s'adresser? Donc, en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un lieu, justement, qui soit un lieu fixe, où les gens vont pouvoir venir chercher de l'information et pouvoir poser toutes les questions qu'ils auront à poser, mais également avoir un lieu où ils pourront peut-être juste venir écouter, ou juste venir se poser quelques instants. Et c'est ce que nous, on cherche, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la maison des aidants et des aînés, pour l'instant. Et on en a donc parlé avec l'Interco. Et on nous propose donc d'avoir un bureau dans la maison des usagers. Donc la maison des usagers, c'est qui est près de l'hôpital à Saint-Marcellin. Et ça, ça devrait voir le jour sous peu. Donc il y aura vraiment ce lieu fixe où les gens pourront venir pousser la porte. Et ça, c'est un grand, grand pas.
Ça, c'est pas mal pour repérer aussi l'association, repérer des personnes qui peuvent être là.
Tout à fait.
Donc ça, c'est... Donc, on guette dans cette maison des usagers avant de créer votre propre maison.
Voilà, ça serait l'aboutissement. Ce serait vraiment d'avoir la maison des aidants et des aînés là où on nous proposera. Mais travailler avec la maison des... Enfin, pouvoir avoir accès à la maison des usagers et travailler avec l'hôpital de Saint-Marcellin qui souhaite vraiment nouer un partenariat avec nous, parce qu'ils, pareil, ils se rendent bien compte de l'importance du rôle des aidants dans la prise en soins. Et ça, ils en sont conscients, parce que ce virage domiciliaire est très important et évitera les risques de hospitalisation, etc.
Alors, pour le « où nous trouver », c'est vrai que... On a fait un maximum pour être visible auprès de professionnels de santé, des pharmacies, de pas mal d'associations. On continue d'ailleurs. On va mettre à jour, parce que c'est pas tout à fait à jour aujourd'hui. On a un site internet où les gens peuvent aller se renseigner, notamment sur les jours et heures des différents ateliers, des différentes rencontres, justement pour faciliter ces rendez-vous.
Le site, c'est tout simple, c'est elorepi.fr.
Voilà.
Oui, je me dis, les pharmacies, c'est quand même un endroit où il y a pas mal de monde qui passe. Même les mairies, l'accueil des mairies de tous les villages.
Tout à fait.
Je pense au Royan et au Vercors. Alors vous êtes plutôt côté sud de Grésivaudan. Est-ce qu'il y a une volonté de venir jusqu'à chez nous?
Oui, parce qu'on nous l'a déjà demandé, en fait. Donc c'est ce que je réponds à chaque fois. On a déjà bien structuré, nous, sud Grésivaudan. Et après, effectivement, ce que je souhaite, moi, c'est que cette solution soit déployée un peu partout. Et pas, qu'elle soit vraiment... Qu'elle porte cette culture de l'aidance. Et cette culture de l'aidance, en fait, elle est apportée pas que par moi, quoi.
Bien sûr. Non, mais on entend que c'est le démarrage de quelque chose dont les gens ont besoin, et peut-être qu'effectivement les demandes vont affluer et que ça va se développer, parce que ça pallie à un endroit où il manque.
C'est ça.
Des choses.
Voilà. Alors, on va peut-être en revenir au séjour.
Alors, le séjour de répit.
Alors, le séjour de répit. Donc, en fait, les séjours de répit, il y en a de plusieurs styles, on va dire. On a le séjour répit duo aidant-aidé, où en fait, la personne qui accompagne vient avec la personne qui est aidée. Alors, ce n'est pas forcément un couple, parce que quand on dit c'est un couple, je dis non, pas forcément. Ça peut être très bien une fille qui vient avec sa maman, un voisin qui vient avec un proche qui l'aide, etc. Et ces séjours sont proposés en fait à Chasselet, dans la maison d'hôte Céleste, avec qui on a noué un partenariat. Donc en fait, les personnes viennent pendant 5 jours, donc 4 nuits, où on les accompagne totalement, c'est-à-dire qu'on leur propose des activités, on leur propose du relayage pour qu'elles puissent aussi prendre soin d'eux, parce que c'est le but. Et surtout, c'est de pouvoir leur donner des outils. Quand ils rentrent à la maison, d'avoir quelques petits outils pour dire « Voilà, j'ai ça, ça et ça dans ma mallette et je vais pouvoir souffler un peu. » Voilà. Donc ça, c'est le premier séjour. Donc ce premier séjour a lieu du 13 au 17 avril. Il est déjà lancé à Chasselet. Voilà. Il y en aura un autre en juin. Et d'autres aussi par la suite, bien entendu. Et après, il y a les séjours aidants. Donc là, c'est exclusivement l'aidant qui vient seul. Donc là, j'ai eu pas mal de demandes, mais par rapport à des personnes qui ont été placées en institution. Donc on en vient à ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc cette post-aidance qui est très importante, parce que quand on a passé 10 ou 12 ans de sa vie à s'occuper de quelqu'un, on a mis tous ses besoins en aparté. Et cette personne, une fois que la personne est partie, il y a un grand vide. Et qui est vraiment énorme, et les personnes sont épuisées. Donc là, c'est pareil, c'est de venir les ressourcer, de proposer des outils, pareil, pour aider à exprimer ce qu'elles ont exprimé et surtout à se reconstruire. Et après, d'autres séjours dont on est en train de mettre au point, dont ce qu'on appelle nous un séjour passerelle. Ce serait de pouvoir prendre la personne aidée pendant 15 jours pour faire la passerelle entre la maison et l'entrée en établissement, qui est toujours un moment très très critique avec beaucoup de stress, parce que la personne qui doit entrer en établissement, je vais mettre les mots que j'entends tout le temps, c'est le mouroir. Non, ce n'est pas le mouroir. Donc voilà, d'aller travailler là-dessus et surtout d'aller travailler sur la culpabilité.
Voilà. La culpabilité de l'aidant. Voilà, toujours entre est-ce que je le fais pas, c'est le trahir, c'est pas le trahir, c'est il ça. Est pas d'accord, voilà. Et quelque part la réassurance, la confiance et l'apaisement de l'aider qui se rend compte que finalement 15 jours en dehors de chez lui, dans une structure où il y a du monde, il y a de la compagnie, il fait pas forcément à manger, c'est pas si mal que ça.
Mmh. Et il renoue surtout avec du lien social, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais dans les danses, il y a aussi cette rupture, cet isolement qui est hyper important, parce que les gens le disent tout le temps, mais nos amis ne viennent plus, notre famille, tout le monde s'écarte parce que voilà, ils ne viennent plus, et l'isolement est vraiment très très important.
On entend à quel point ces questions sont fondamentales et, encore une fois, touchent énormément de gens, quasiment tout le monde. Du coup, on vous invite, chers auditeurs, auditrices, à capter les signaux autour de vous, diffuser cette culture de l'aidance, sensibiliser sur le fait qu'il y a des solutions, qu'on n'est pas obligé de rester seul avec cette situation. Betty, Christelle, est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé avant qu'on referme cette interview?
Il y a une petite précision, parce qu'on parlait relations, et c'est mon côté, je verse ma larme, mais c'est très vrai, en fait, la vie est courte aussi, chaque instant de vie est précieux. Cette relation qu'on va avoir entre aidant et aidé est vraiment à bichonner dans le sens où on ne peut pas se contenter de se dire, tiens, en tant qu'aidant, je m'occupe de mon père ou je m'occupe de ma mère, et puis ça se passera comme ça se passera. Or, en fait, on est en train de vivre nos derniers mois, nos dernières années, peut-être nos dernières semaines ensemble, et il est important de préserver la relation dans ce temps qui est imparti, dans ce temps qu'on a la chance de vivre. Et être dans les danses, se considérer justement comme aidant et vouloir être accompagné dans cette démarche-là, ne pas être seul dans cette démarche, c'est aussi pouvoir préserver cette relation précieuse qu'on a du coup la chance de vivre.
C'est ça, c'est de dire les danses, ce n'est pas que des nuages noirs et gris, les danses, ça peut aussi être vécu avec beaucoup de sérénité, beaucoup de paix, de calme et aussi beaucoup de beauté.
De joie.
Voilà, et de préciosité.
Tout à fait.
Et le répit, prendre soin des aidants, c'était le moment de faire un focus là-dessus. On vous retrouve sur le site internet d'Hello Répit. On vous retrouve à différents endroits, on l'a dit, à Vinay, à Saint-Marcellin, bientôt dans le Royan et dans le Vercors. Et puis on tâchera de suivre un peu le développement de votre travail.
Avec
Christelle,
plaisir.
Betty, merci beaucoup d'être venue ce matin nous parler de ça.
Avec plaisir, merci.
Merci à vous.